Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Monsieur le professeur, je vous dis merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour et bienvenue sur Clap, l'émission du cinéma qui s'écoute. Et ben aujourd'hui, on va continuer la conversation que vous avez pu découvrir et écouter avec passion le mois dernier. Oui, passion. Le thème était donc premier film produit. Et on avait commencé à embrayer une conversation qu'on a décidé de poursuivre ce mois-ci avec Lucie, Clémentine et Baptiste et Marie qui co-anime cette émission avec moi. Bonjour Marie.
Bonjour Boubou.
Bonjour à tous. Ouais, voilà, bonjour à tous. Nous sommes toujours accompagnés de Aurèle et Raphaël à la technique. Comme ça, on le dit direct, comme ça, si on oublie de les remercier à la fin, c'est pas grave. Et ben voilà, donc on reprend cette émission, cette discussion libre. Marie, tu avais une question à poser d'emblée.
Moi, je voulais que Lucie, si tu pouvais nous raconter, toi, ce qui s'était passé en tant que réalisatrice avant que tu fasses partie de ce collectif L'Argent qui a monté une boîte de production, du coup.
Ouais, alors c'était en fait à la sortie de l'ESSAV, on a écrit un film à trois avec Tarek qui avait fait l'ESSAV en images, moi en son, et un troisième personnage qui n'avait pas du tout fait l'ESSAV et qui était plus âgé que nous et qui venait complètement de notre parcours. On a écrit à trois un film qu'on a voulu réaliser à trois et qui est donc en fait avec une répartition des rôles un peu liés à juste qui on était. Donc moi je faisais le son, Tarek l'image et puis Karim il jouait son propre rôle. Donc c'était un documentaire avec pas mal de brèches fictionnelles dedans. On est parti tourner en Algérie pendant 9 mois et demi. On a pris vachement de temps parce que on voulait écrire sur la route avec ce qui nous arrivait. Donc on avait écrit quelque chose et donc je peux reprendre à cette étape là on avait écrit une forme de scénario tout en étant vraiment si je le relisais maintenant c'est assez illisible en fait je pense parce que c'est écrire un documentaire nous à cette époque là on savait encore moins comment faire déjà qu'on sait pas trop maintenant là on savait encore moins faire donc c'était assez étrange mais en tout cas on avait dessiné un parcours et on avait dessiné un personnage aussi, on voulait pas que Karim y soit seul, sans armes, face au réel, mais on lui avait un peu dessiné des attributs et des tout trucs, des trames qui n'étaient pas à lui, quoi. Et donc on en était là un moment, et on s'est dit, on s'était fait des petites résidences à trois, tout ça, on avait étoffé les choses, on avait fait lire, etc. Puis on avait un copain qui travaillait à Marseille dans une structure, une asso, avec qui on voulait bosser, qui présente en PACA en écriture. Et on a rencontré des gens, une boîte de prod qui n'existe plus maintenant, qui était à Toulouse à l'époque, et qui faisait. On a voulu faire une coprod du coup entre les deux, et tenter les deux régions, et puis voir tout ça, comment ça se passe. Et alors, en plus, c'était une époque où les régions, elles. Il y avait vraiment un tournant, un virage dans la manière de gérer les budgets. C'était le début de serrage de vis un peu plus drastique que d'habitude, etc. Enfin, ça n'a pas du tout marché de toute manière dans nos dossiers. Et donc, après ces deux refus, la boîte de prod de Toulouse nous a dit « Bon, alors, écoutez, on est parti ensemble, ça nous intéresse, tout ça, machin. Par contre, on part sur un calendrier de « Dans 2 ans, vous aurez peut-être le début de quelque chose pour aller tout tourner, quoi. » Et là, on a dit, non, mais c'est pas du tout possible, c'est pas du tout... Nous, on est dans plutôt une urgence, en plus, on ressentait vraiment une grosse, un gros élan, quoi, de partir vite. Parce que ça s'appuyait sur des parcours de vie, là, de Karim et tout, de ce qui se passait pour lui à ce moment-là. Et du coup, on a dit, non, mais c'est pas possible. Au revoir et bisous. Et puis, on s'entendait bien. Alors, on a continué à leur faire lire des trucs et tout, qu'on continue à écrire. Mais on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, je me souviens plus comment, mais Tarek a compris qu'il y avait un truc à faire qui était un appel à souscription avec déduction fiscale pour les donateurs qui pouvait se faire. Donc avec une asso qui s'appelle Sambarevi à Toulouse et une autre asso monté par des copains qui s'appellent Chercheurs d'autres. On a monté une autre asso. On avait monté une asso à l'époque pour ce film. On a fait un partenariat tripartite où on a, grâce à... en fait, il faut avoir ce qu'on appelle un rescrit fiscal pour une asso, pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux à des donateurs, donc pouvoir faire bénéficier des donateurs de cette déduction fiscale. Et donc, sans barésie, c'était leur cas. Du coup, on a, grâce à eux, on a monté un peu une stratégie, mais qui était hyper liée aux singularités de ce projet. Et parce que, en fait, Karim, il avait un parcours d'ingénieur en physique. Il avait plein de potes. En fait, Karim et Tarek sont deux garçons qui sont arrivés à l'âge de 20 et quelques années en France. Et donc, pour finir leurs études, donc, Karim, dans son parcours, en tout cas, lui, il avait plein de potes qui avaient fait physique, qui avaient continué leurs études en France et qui étaient devenus ingénieurs parisiens, etc., qui... payer 2000 euros d'impôts par an, en gros, quoi, ce profil, et qui était hyper chaud de renouveler des élans qu'ils avaient eu à la fac ensemble, des plein de trucs qui étaient hyper liés au film, parce que le film, il visitait un peu l'histoire contemporaine de l'Algérie, et puis ils étaient tous barrés pendant la guerre civile, donc c'était des sujets chauds pour eux, enfin, ils avaient vachement envie, quoi. Et du coup, on a fait des réus là-bas, enfin, on les a tannés complètement, et ils nous ont fait des chèques et puis des gros chèques parce qu'ils voulaient bien filer tous leurs impôts, puis après, comme c'est souvent le cas, on fait des micmacs aussi, puis on s'arrange pour pas qu'ils payent vraiment, enfin, parce qu'il y a 60% de déduction officielle, c'est sympa. Après, avec les 40, tu peux trouver. Tu peux essayer de faire en sorte qu'ils payent vraiment pas quoi ce qu'ils donnent, etc. Voilà, on a quand même rassemblé en fait, on avait un peu des FSDE, vous connaissez ça, des fonds solidarité étudiants sur le côté. On a eu un peu de thunes de la mairie de Paris, n'importe quoi, de Toulouse, et on a eu, en fait, on a eu un budget de 50 000 euros avec tout ça quoi. Et on était à l'aise.
Dans le fisc, c'est bien
ça.
C'est une solution que tu avais dit le mois précédent, que tu pouvais pas refaire.
Ouais, parce qu'il faut avoir des gens à tanner. Et que là, on avait un super public et qui était chaud, quoi. Qui nous ont suivis, hein, qui ont vu le film et qui, enfin, tu vois, ça a été un truc, quoi. Et du coup, c'est ça, c'est que après, ouais, faut chercher l'argent où il se trouve. Et là, c'est un super endroit où il se trouve, quand même.
Et ça, c'est un court-métrage qui s'appelle comment ?
Non, c'est un long-métrage, documentaire, docu quelque chose, quoi, qui s'appelle Chantier A, et qu'on a fait, ouais, longtemps, quoi, enfin, on est allé tourner, alors on n'aurait jamais pu, enfin, je sais pas, enfin, si, avec des prods, maintenant, je sais qu'il en existe, des prods qui nous auraient vraiment laissé du temps, le temps qu'on voulait, mais on est parti 9 mois et demi, tranquille, sur ce trajectoire qu'on s'était fixé. On est allé super loin, en fait, en Algérie. On est allé jusqu'aux confins du pays, dans le Sahara, quoi. C'est un super grand pays, l'Algérie. Donc on a pris le temps de décomposer aussi tout ce qu'elle est, parce que c'est un pays, mais qui a mis le pays en lui. Et du coup, voilà, on avait besoin de ce temps, en fait.
Et c'est après cette expérience-là, du coup... Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que vous avez décidé avec plusieurs autres personnes de créer une boîte de prod ou
ouais, en comment fait, il c'est... arrive c'est... Pour nous, c'est au sud de ça. Après, il se trouve qu'on a bossé, qu'il y avait toute une émulation de avec d'autres potes. On bossait aussi sur d'autres projets qui avaient un peu la même énergie en fait dans les tournages et dans l'écriture et tout ça. Et ouais, en fait, ce film Chantier, il a bénéficié d'un truc, d'une chance, de parcours qui fait qu'il a vachement marché en festival. Enfin, on a très vite eu pas besoin de l'inscrire nulle part. Il poussait les portes. Enfin, après, c'est un peu triste, hein, ces circulations circulaires des objets culturels comme ça. Il y a un festival, ça ouvre 10 portes et ils diffusent tous les mêmes trucs. On se retrouvait souvent avec les mêmes films en festival. Enfin, après, il allait super loin. C'est assez fou quand son film va en Corée du Sud Brésil et tout, était là. Bon, bah, c'est vraiment génial d'imaginer tous ces gens qui l'ont vu. Et après, voilà, enfin, juste, je parle beaucoup, je vais bientôt finir, mais il y a eu au bout d'un moment, on nous a poussé aussi à des retours de programmateurs et autres, des producteurs et tout, qui nous ont poussé à distribuer, à vouloir, enfin, à s'engager dans la distribution de ce film et tout. Et en fait, bon, il fait l'offre. Ouais, pour une sortie nationale. Voire autre, etc. Mais déjà ça, et en fait, là, on a commencé à... Parce qu'on connaît des gens qui connaissent des gens, etc. On s'est renseigné un peu, puis on a commencé à appeler, à vouloir prendre un rendez-vous, etc. Puis c'était vite la folie du relationnel, quoi. C'était... on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'ils arrivent à nous... Enfin, à nous, à, finalement, à suivre le projet, parce que... Ils étaient disponibles un jour en nous disant des choses incroyables, et puis après, c'était... Mais c'est le milieu de la... Je sais pas, ça va à 100 à l'heure, quoi. Et on dirait qu'ils ont vraiment pas une seconde à eux, et c'est là où, en fait, c'est quand t'as un producteur, il y a une écoute bien autre, en fait. Ils ont pas beaucoup de projets, finalement, qui sont portés par des auteurs. Bonjour, on a un film à distribuer, regardez, on a fait tous ces festivals de catégorie 1, là, comme on les appelle, etc. Il y a eu cette presse, telle presse, etc. Et puis, on n'est pas du tout profil classique. Et du coup, on ne parle pas le même langage, etc. Et donc, bref, mais en tout cas, on voulait profiter, par exemple, du fait que maintenant qu'on a fait chantier, enfin, pour la boîte de prod, pour l'histoire de production classique, on s'est dit, bon, bah, y a un truc cool, c'est que ça ouvre... À l'écriture cinéma sans forcément la production en France documentaire, c'est le truc classique qui marche avec télé, en fait. Et du coup, là, nous, on n'a pas besoin pour notre prochain film, parce que celui qu'on a fait avant, il est passé en festival de catégorie 1. C'est complètement fou aussi. On peut en parler pendant des heures, mais c'est comme ça. Et du coup, on s'est dit, mais profitons-en. Enfin, du coup, faisons ça, faisons du CNC, faisons du machin. Tentons toutes ces histoires, quoi. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Je sais plus ce que tu
dis. C'est bien, c'était ça. Hein.
Et du coup, pour le prochain film, justement, donc c'est... Votre collectif qui va le produire, vous allez vous mettre en coproduction pour avoir un regard extérieur quand même, ou comment ça va se passer ?
Bah en fait, Tarek, il a un projet de fiction là qui va vraiment demander vachement de temps. Donc il l'avait présenté en écriture au CNC il y a 2 ans maintenant, je pense, qui lui avait dit réécrivez, ce qui est déjà une étape, enfin qui est pas un non en fait. Donc c'est ce que tu avais eu aussi, ouais. Ça. Et mais il s'est passé plein de trucs dans sa vie, et il a passé à autre chose, et il va le retenter là, et puis il va repasser. Donc c'est plus un projet de... Alors il y a des stratégies, il veut le présenter en cours, mais c'est un long de fiction. C'est plus simple, mais c'est aussi parce qu'on avait un super contact en court-métrage au CNC.
C'est pas pour la production du film, c'est toujours... je me rappelle avoir eu des cours de production où, en fait, c'était des cours de truande, quoi. J'avais c'est l'impression, ça, ouais. Mais c'est vraiment ça. Et il y avait des gens qui venaient, qui avaient ouvert des boîtes de production un peu en région. On voulait nous expliquer un petit peu comment se passait la production en région. Et tu te disais, mais en fait, ils passent leur temps... à contourner des règles très restrictives, à trouver de l'argent par des biens un peu détournés. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, surtout pour un premier film où tu es en train de bidouiller un petit peu partout pour trouver de l'aide où tu peux en trouver, quoi.
Ouais, c'est fou. Après, c'est fou. Enfin, c'est dégueulasse et tout. Nous, on a... enfin, c'est juste qu'il te reste une marge de manœuvre, c'est avec qui tu joues, quoi. Mm-hmm. Quel humain. Et donc, des fois, tu as des humains cool. Et du coup, tu veux bien jouer avec eux. Eux, ils jouent aussi à l'intérieur de l'institution. Et du coup, ils te racontent comment ils jouent. Et du coup, tu parles de... Mais bon, après, c'est chelou de faire ça. Mais finalement, on y a été dans ce délire, quoi. Et puis, c'est... Après, oui, c'est... du coup, pour moi, juste pour finir, moi, j'ai un docu en montage, quoi, en milieu de montage, qui me demande encore du temps. Et moi, j'ai décidé de le faire en autoprod complet, parce que c'est un projet vachement qui me demande vachement d'énergie et de décantation, et du coup j'ai pas voulu, même avec l'argent, j'ai pas voulu, parce que j'ai pas voulu envoyer mes dossiers, enfin envoyer toute cette histoire, j'étais pas encore prête, quoi.
Même avec l'argent, le collectif, tu l'as pas partagé
si avec eux vachement, parce qu'en plus on fait des résidences d'écriture et tout, donc on a vachement tchatché, tout le monde connaît bien ce projet et tout, mais j'ai pas voulu l'envoyer à des inconnus et tout ça, j'étais pas encore dedans. Et en fait, maintenant qu'on est en montage et tout ça, et que je vois que la forme se dégage, là, j'ai envie d'aller chercher de la thune maintenant. Donc on va le faire, là.
Moi, j'ai une question un peu pour tous. Mais, j'ai deux questions. Je sais pas par laquelle commencer. J'ai choisi, ça y est. C'est une question peut-être un peu bête, hein, mais c'est de savoir ce qu'on attend d'un producteur quand on est premier, enfin quand on est réalisateur, qu'on va chercher, parce que on a parfois la chance d'avoir plusieurs producteurs intéressés par notre projet, il faut choisir, ou juste on a un idéal de qui on veut s'entourer. Et je me demandais un peu, Clémentine, par exemple, tu vois, quand tu as ton scénario, un scénario c'est toujours un peu personnel, ce que tu attends, ce que tu as trouvé, je sais pas, ce qu'on.
Mais tu peux faire la part entre ce que tu cherchais, ce que tu as trouvé, et ce que tu es en train de construire en prenant ta place.
Pourquoi on va chercher des producteurs au final ? Parce qu'on peut faire des films autofinancés si on veut. Alors peut-être pas de la fiction, toi tu es plutôt dans de la fiction en ce moment, mais ce que disait Lucie tout à l'heure, bon, il y a un doc, voilà, pour l'instant elle avait décidé de le faire en autoproduction, mais.
Oui. Je crois que. En sortant de l'école, je me disais que c'était un peu à la fois. Une étape, je cherchais un producteur parce que j'avais envie de faire un film qui soit pas dans le cadre de l'école et pas avec les copains, même si là j'ai encore envie de tourner avec des amis avec qui j'ai tourné à l'école et qui sont sortis de l'école comme moi, mais avec l'idée que il serait payé pour ce film là et qu'on aurait un autre rapport sur le tournage que tirer sur la corde et faire ça sur du temps libre avançant la thune que je pouvais, quoi. Il y avait à la fois ça et puis il y avait à la fois le fait de tenter l'aventure, quoi. C'est que je savais pas comment ça se passait, du coup je me suis dit que quand même il fallait un peu essayer. J'espérais avoir à la fois... Enfin, là, du coup, c'est en cours de production, mon projet. On n'a pas du tout commencé le tournage. On a fini d'écrire et on commence les préparatifs. Donc, de mes attentes jusqu'à présent, j'espérais avoir un peu une oreille bienveillante, en particulier une personne à qui faire lire, avec qui travailler. Je pense que je l'ai trouvé. De ce que j'attends pour le tournage, j'attends à la fois tout bêtement de l'argent pour que ça puisse être fait. J'attendais aussi ça de la préparation, une aide. En fait, je suis vraiment une grosse bille en constitution de dossier. Et si je dis que je ne sais pas comment ça se passe avec la région Occitanie ou qu'il a postulé à des trucs sans moi, c'est que... J'y prends absolument pas part et ça me va très bien, quoi. Je gère le côté scénario, note d'intention, et encore des fois ils écrivent mieux que moi c'est plus lisible, c'est-à-dire que moi c'est un peu poétique, mais bon, faut un peu s'accrocher pour comprendre, quoi. Et en fait, pour ce qui est du tournage, j'espère avoir genre la même liberté, mais avec ce soutien, cette oreille et l'argent qui va avec, quoi.
Un vrai partenaire de travail, en fait.
Ouais, complètement.
Que ce soit pas... Oui, c'est ça.
Ouais.
Quelqu'un qui va reprendre des choses avec toi et qui, en même temps, va te guider. Et qui, c'est un binôme, quoi, qu'il faut constituer, en fait.
Un binôme, mais qui a pas du tout la même tâche que la tienne.
Oui, c'est ça. Dans le respect chacun du travail de l'autre, en fait.
C'est ça. Et aussi les frottements qui sont dus au fait qu'on n'a forcément pas les mêmes attentes et que, donc, du coup, voilà.
Parce que du coup, tu as décroché une aide à l'écriture sur ce projet ou...
Ben, en fait, c'est une aide, c'est pas une aide à l'écriture, mais c'est une aide sur scénario pour la post-production.
Donc, tu es déjà un peu payé maintenant ?
Non.
Donc, tu dois pour l'instant continuer à travailler à côté.
Okay. Ouais, je serai payée par rapport au scénario, je serai payée par le contrat qu'on a signé ensemble
au moment du tournage, comme scénariste.
Parce que c'est ça aussi qu'on peut dire, c'est que sur un premier film, très rarement, l'auteur peut en vivre, quoi. Ouais. Et très rarement se paye, en fait.
Tout bêtement, j'y avais même pas pensé, tellement ça me paraissait tristement, très, très tristement évident, mais t'as raison, effectivement.
C'est quelque chose que moi, je sais, enfin, bon, voilà, très personnel, mais ma mère, ce week-end, qui me dit « Ah bon, mais l'an prochain, tu vas pas vivre de ton prochain film, qui n'est pas tourné ?» Ah bah non, ça risque pas. Ouais. Mais voilà.
Non, on fait ses preuves assez longtemps, en fait, hein, du coup. En court-métrage, je pense qu'il y a très peu de gens qui en vivent, en tout cas.
Je sais pas si on peut en vivre.
Non, je pense pas. C'est une première porte.
Peut-être du documentaire.
Ouais, c'est ce que j'ai pas osé le dire, mais un petit peu quand même, ouais.
Parce que tu crois, toi, que... Parce que tu m'as parlé de ton projet, donc je...
Bah, vu que je tournais... vu que je tournais quand même pendant une période assez longue, que je n'ai pas figé, j'ai l'impression que, ouais, il faudra quand même que je fasse quelque chose à côté pour vivre, quoi. Quoi qu'il en advienne, quoi.
C'est un projet de docu, du coup ?
Ouais, c'est un projet de documentaire. C'est le portrait d'une jeune fille.
D'accord.
Qui s'appelle Boubou.
Ah tiens, on la connaît.
Mais ça, c'est une autre émission.
Nous, on aime bien la mise en abîme dans cette émission. Mais on va revenir sur vous.
On va revenir
sur que c'est vous qui êtes intéressant.
En tout cas, la remarque aussi était importante aussi. C'est vrai qu'en documentaire, on peut peut-être un petit peu plus se concentrer. Enfin, une fois qu'on a une aide, ça peut un peu, ça aide aussi à se concentrer sur un projet qui, de toute façon, va durer longtemps. Et en fiction, on planifie. Normalement, on est censé assez vite savoir combien de temps ça va nous prendre une fois que le scénario est fait. Quoi, normalement, on sait ce que ça va durer. Alors qu'en documentaire, on ne sait pas.
C'est là où il faut arriver armé aussi, tout ça, avant de parler à des prods. Enfin, ou avant ou pendant, ou après. Enfin, pas après. Avant ou pendant. Parce qu'en fait, il y a quand même plein de choses que si on ne les sait pas, on ne peut pas lui proposer, en fait. Mais par exemple, en docu, il n'est pas rare que sur un premier film, la prod fasse autant de cachets qu'il faut pour une intermittence, quoi. Et ça, c'est quand même une chance. Après, putain, tu vois, il faut se renseigner. Enfin, je sais pas comment ça se passe en court-métrage, mais tu peux percevoir des droits d'auteur à chaque projection. Enfin, il y a plein de trucs où il faut aller... on te le dit pas, quoi.
On te le dit pas et généralement, on te le permet pas tant que ça, quoi.
Mais les droits d'auteur, ça dépend même pas du prod, pour le coup. Donc, tu peux aller chercher. C'est la SCAM qui fait ça. Enfin,
tu peux. Oui, alors, tu peux peut-être, ouais.
Parler, ça fait plusieurs fois que je sens une ouverture, mais que je n'y vais pas, mais là, j'y vais. C'était ma deuxième question de tout à l'heure que je n'ai pas posée parce que je devais choisir. Mais ma question, c'était justement la diffusion, parce qu'on parle beaucoup de la production en amont sur le suivi de scénario et après sur le tournage. Et en fait, je suppose que la diffusion est réfléchie bien en amont, justement, enfin, bien dès l'écriture du... Enfin, je suppose que... Oula, c'est confus comme phrase, je refais. Je suppose que dès qu'un producteur... dit oui à un scénario, il va se dire bon bah ce film on va l'envoyer dans tel festival où il y a possibilité de le vendre à telle télé ou j'en sais rien, je pense que peut-être ça se réfléchit en amont, mais en
ça
tout cas quand est-ce que ça s'espère en amont bien sûr, mais quand est-ce que dans votre expérience est-ce que vous, je sais que Martin par exemple t'as fait des projections il n'y a pas très longtemps de très récemment de ton film, jusqu'où le producteur va quoi, est-ce que comment ça se passe aussi la recherche de diffusion, est-ce que sur un premier film toujours, mais
le grec il compte pas trop dessus, donc mais je pense que c'est pareil sur tous les premiers projets, c'est à toi de tu espères beaucoup qu'il va être diffusé, mais notamment c'est peut-être la raison pour laquelle Lucie tu disais les droits d'auteur, c'est vrai qu'on essaye de les toucher, enfin qu'on peut y prétendre, mais on est obligé de faire pas mal de, enfin de toute façon on laisse tomber assez rapidement ce genre de choses parce que l'enjeu c'est quand même d'être diffusé, enfin que le film existe quoi. Et j'en profite juste pour faire remarquer qu'il y a quand même énormément de courts-métrages, produits ou pas produits d'ailleurs, qui ne sont pas diffusés et qui n'existent pas alors qu'ils étaient conçus pour être diffusés sur grand écran. Ça pose la question aussi, toutes les régions maintenant financent d'autres aides, je diverge tout le temps quand on pose la question, mais maintenant il y a des aides pour la réalité virtuelle, pour plein de choses, je pense que c'est à nous aussi de nous poser la question de vraiment comment est-ce qu'on veut diffuser notre projet et quelle est la forme qu'on souhaite lui donner, en plus il y en a plein, parce que c'est presque devenu évident que notre film il est fait pour aller sur un grand écran dans un cinéma. Parce que c'est rare, déjà, parce que. Enfin, puis oui, c'est assez rare qu'une salle, c'est pas si facile que ça à diffuser un film dans une salle. Ne serait-ce que pour ça. Et parce que aussi, c'est une forme, diffuser un film dans une salle de cinéma. Il faut penser à tout plein de contingences. Ça mérite qu'on se pose la question de tiens, est-ce que c'est un film de cinéma ce que je suis en train de faire ? Et c'est bête ce que je dis, hein, mais bon, voilà. Ça permettrait aussi peut-être aussi au festival d'être un peu moins surchargé de films qui des fois en effet sont tous
est-ce que c'est un sujet qui se discute avec le producteur, enfin comment ça se passe Clémentine, toi par exemple t'es pile à ce moment-là de l'écriture, est-ce que la diffusion a déjà été abordée ou est-ce que c'est un truc qui viendra en fonction du résultat?
Parce que là du coup il y a une idée de contacter une chaîne télé, c'est déjà pas les mêmes aides télé,
ouais cinéma. En fait oui ouais. Non, la diffusion s'est pas du tout posée jusqu'à ce qu'on n'ait pas le CNC et où du coup on pose des dossiers dans des télés, ce qui aboutirait potentiellement à des diffusions télé. Moi, je me suis dit que un court métrage, ça sera pour être diffusé en festival parce qu'en fait, c'est un peu ce que t'espères d'une vie d'un court métrage une fois que tu l'as produit. Je pensais pas forcément à un cinéma de manière classique, à quelle place il aura sur Internet, à des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est une question ultra pertinente, surtout qu'il y a plein d'œuvres audiovisuelles multiples et que...
Ouais. Si je peux préciser, quand ça arrive à ce moment-là, une histoire de... coprod télé, c'est pour vraiment une stratégie de prod, en fait.
Ouais,
pas de, pour avoir des sous. C'est, on pourrait croire, hein, c'était la nature première, je pense, les intentions premières, mais en fait, c'est vraiment pour pouvoir équilibrer dans le budget des apports en industrie et tout ça, quoi. C'est vraiment une stratégie de financement.
Ouais, notamment, peut-être pour faire entrer des financements privés, les fameux qui peuvent aussi être nécessaires quand.
C'est en tant que levier pour aller chercher des
financements. Peut-être levier. Bon, de toute façon, une région ne donne jamais s'il n'y a pas un autre apport. Oui, non, quoi. Oui, ça, donc sûr. Déjà, c'est un apport. Mais c'est, est-ce que aussi, ce n'est pas reconnu comme apport privé et donc ça ne peut pas être valorisé? Je ne sais pas.
Est-ce que tu... Ouais. Ouais, question.
Non, mais c'est une question que je n'ai pas éclaircie, mais je crois vraiment qu'il y a une nécessité de trouver des apports privés quand même un minimum dans le financement d'un court-métrage une fois qu'on a certaines aides. C'est vraiment l'enjeu. Enfin, moi, c'est ce que je retiens un petit peu de ma première expérience, c'est qu'avoir une aide ouvre des portes, mais aussi crée des nécessités, enfin, de la nécessité, quoi. Et deuxième, donc, faut trouver d'autres choses. Ça veut dire que, oui, tu l'as, mais il faut que tu aies ça. C'est, enfin, faut aussi que...
C'est là que ça gonfle, les budgets.
Ouais.
En fait, d'avoir...
Le fait aussi que j'ai eu la région, par exemple, je pense nécessité aussi que je paye les gens. Ça tombe bien, c'était ce que je voulais. Mais avec le grec, au départ, voilà, c'était pas une nécessité. Mais bon, dès qu'on a une région, on sait que là, on va devoir payer les gens, quoi. Ouais. Généralement, voilà, pas beaucoup. Voilà.
Et du coup, moi, j'aimerais vous demander ce que vous pensez du circuit festival que moi je trouve devient de plus en plus important et primordial, et en même temps de plus en plus, comme tu disais toi, circulaire, quoi. On retrouve les mêmes films, du fait qu'on a un peu serré la vis sur toutes les aides à l'audiovisuel et au cinéma.
Qui est allé en festival dernièrement?
Ben, nous on était à l'USAS, au festival du film documentaire. Moi je suis pas du tout experte, peut-être Lucie t'en parlera mieux, mais... Moi, la sensation que j'ai de spectatrice de festival, c'est que t'as un peu soif de voir des nouveaux regards, quoi. Et que je n'ai aucune idée d'un point de vue un peu plus genre macro, de comment ça se passe, de comment les films sont sélectionnés et de à quel point on va nous redonner les mêmes films à voir, quoi. Ça me questionne un peu aussi sur les publics de festivals qui sont souvent soit des gens passionnés de cinéma, soit des étudiants en cinéma, et un espèce de au contraire de microcosme qui moi m'interroge et me dérange un peu. Enfin, c'est facile de dire ça, mais juste me questionne, quoi. Enfin, c'est la question aussi de ce que tu disais, Baptiste, de pour quel type de diffusion un film, on fait un film, mais aussi pour qui tu fais un film, parce qu'en fait Si au bout d'un moment tu décides de montrer ce que t'as écrit ou ce que t'as mis en scène, c'est que ça s'adresse à quelqu'un, quoi.
Et que t'espères que ça va rencontrer des gens inattendus, enfin
ouais, que ça va toucher des gens différents de toi, quoi.
Que le film va voyager et qu'on va pouvoir le suivre, ou pourquoi pas justement en Corée, n'importe où, très loin, quoi.
Et que ça apporte un truc, quoi. Donc voilà, ça me laisse un peu...
Bah, ça pose la question, de toute façon, du court-métrage, à quoi ça sert, comment on aide le court-métrage, quelle est la place de... Bon, alors, en l'occurrence, du court-métrage, mais on pourrait aussi parler des longs-métrages aussi, documentaires ou même de fiction, qui tournent en festival et qui sont faits pour les... Enfin, qui sont un peu faits pour les festivals. Il y a, bon, on remarque, sans dévier, on remarque quand même qu'il y a des courts-métrages d'auteurs un petit peu mondialisés, quoi, un petit peu, ça peut être turc, ça peut être, je sais pas, colombien, n'importe... Mais c'est un petit peu...
Avec la marque de fabrique, quoi.
Un peu, et c'est des films de festival. Bon, les longs métrages. Bon, après, c'est un peu facile de dire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les courts métrages, il y a une nécessité pour un court métrage d'être vu en festival, ou sinon, il est raté. Voilà.
C'est ça.
Oui, pardon. Vas-y. Bon, j'y vais alors. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une. Comme il y a quelque chose d'implicite qui dit que le court métrage est une étape pour arriver au long métrage en tant que réalisateur, ce qui n'est pas forcément la volonté de tout le monde, mais il y a une espèce de. Oui, je suis d'accord, mais il y a une espèce de code. Implicite qui dit que si tu veux faire du long métrage, il va falloir passer par le court métrage comme un tremplin, en oubliant que ben, y a des gens qui font du court métrage complètement par volonté, parce que c'est une forme en soi.
Et
puis... il y a une espèce de truc, j'ai l'impression, du coup, quand tu fais un court métrage, il faut qu'il soit vu en festival pour servir de tremplin, justement, pour qu'il y ait un. Pour qu'en festival tu rencontres d'autres producteurs et tout ça.
Ouais,
quoi.
Mais du coup, ça implique qu'il y a une espèce de dévalorisation du court métrage. Alors que, en fait, c'est des formats que je trouve ultra intéressant, et avec les séries aussi, enfin, il y a une espèce de développement de types différents, de formats, de durée, et avec le peu d'attention qu'on a dans la vie, le peu de temps qu'on donne parfois au film. Enfin, moi, la première, il y a des fois, j'ai pas envie de me faire un film d'une heure et demie, quoi. Bah, tu vas voir des courts-métrages et tu peux entrer dans des univers en 5 minutes, quoi. Et qui te racontent des formats ultra différents, qui ont pas les mêmes schémas narratifs 1000 fois exacerbés et 1000 fois vus. Je trouve que c'est vraiment con, quoi.
Ouais. Et encore une fois, quelle est la place du court-métrage ? Moi, je sais que les meilleurs courts-métrages, je les ai vus au cinéma, et pour une simple et bonne raison, c'est que le cinéma, il aide le court-métrage à être vu aussi. Enfin, c'est-à-dire que quelque chose se porte et forcément porté un peu plus fort, plus haut, plus puissamment, et puis ça se partage un peu. Donc, c'est pas pareil que de l'avoir vu sur un petit écran.
Et pas dans le cadre de festival ?
Si, dans le cadre de festival, ou dans le cadre de ceci ou cela. Mais bon, je pense qu'aussi, en dehors du festival, il faut promouvoir, par exemple, l'agence du court-métrage essaye quand même de promouvoir. Je sais qu'ils ont réformé là, leur outil pour diffuser le court-métrage avant les longs-métrages. Donc, ils diffusent ça auprès des salles de cinéma. Simplement, c'est un coût. Je crois qu'ils l'ont baissé, mais pendant un temps c'était un coup, ça s'appelait le radis, et c'était un coup, déjà voilà, ils ont changé de nom, parce qu'il n'y avait pas de sens, enfin voilà, il y avait un, mais c'était un acronyme, quoi. Mais du coup maintenant, bah, c'est moins cher, et puis ça permet quand même, mais il faut encourager les salles de cinéma à diffuser du full, nous-mêmes on peut le faire, mais après ils attendent pour en avoir parlé avec quelques-uns, ils attendent que ça, mais ils attendent surtout à ce que ce soit gratuit. Ils veulent bien diffuser ça avant leur... Enfin, souvent, la salle d'arrêt essai, ils veulent bien. Mais ils veulent que ce soit gratuit. Voilà.
Et moi, Bon, à part peut-être le côté « il faut que ça soit gratuit », moi, c'est les problématiques qu'on vient d'évoquer avec le court-métrage, c'est des choses que je retrouve avec le documentaire de création, moi. Oui. Que, pour l'instant, la seule place où on l'accepte et où, finalement, il est un peu magnifié, c'est dans les festivals.
Oui, c'est plutôt au long-métrage de fiction. On a à se justifier dans ce cas-là. C'est que les longs-métrages de fiction, c'est des budgets... conséquent, et que du coup c'est dans ces productions là que dès le début il est question de distribution, et donc les autres c'est
ouais, alors que c'est le rebut relégué, voilà, c'est ça.
Et du coup bah oui, non mais c'est festival. Après moi c'est sûr que il y a vraiment de tout en festival et en rencontre, et aussi des événements qui utilisent plutôt le mot de rencontre, parce que justement ils essayent, et souvent ça marche chez eux, enfin, parce qu'ils mettent les moyens humains et structurels pour que les rencontres se fassent, et là il y a des rencontres, quoi. Mais oui, c'est quoi le, si tu fais pas une sortie nationale en docu, ce qui est quand même très difficile voilà. Et encore en France on est super bien lotis, il y en a plein et tout, mais faut le faire, quoi. Oui, après sa vie c'est en festival. Après moi j'ai pris énormément de plaisir à être dans des lieux de rencontres de cinéma qui soient autres, et puis jusqu'à même aussi les faire soi-même Et ça c'est assez chouette. Après, il y a plein de... Enfin, encore une fois, je pense à ce truc de... Ouais, en France, il y a énormément de choses qui se font. On a vachement de chance de ce côté-là. Et du coup, il y a beaucoup de choses dans l'officieux aussi qui existent. Et faut aller les... Dès que tu grattes un peu, tu te rends compte de la vigueur qu'il y a et tout. Et de plein de gens qui amènent des films là où on n'en voit pas. Et de plein de manières, hein, que ce soit vraiment la tendance à l'ancienne, et du pop et tout, ou alors beaucoup plus punk maintenant. Et franchement, il y a de quoi, en fait. Enfin, et après, il faut les faire aussi, je trouve. Voilà. Mais bon, c'est pas du tout dans un plan de carrière, quoi. Ça, c'est autre chose, c'est pour juste vivre ce qu'il y a à vivre.
Bon, du coup, ça me permet de poser une question un peu pour conclure et ouvrir en même temps. Je vais la poser à Lucie, mais vous pourrez rebondir les autres. C'est par rapport à l'Occitanie, parce que bon, du coup, on a tous, pour l'instant, décidé de rester à Toulouse et essayer de monter des structures et de faire partie de collectifs ici. Qu'est-ce que tu peux nous raconter du paysage de la production en Occitanie ? Est-ce que tu as vu une évolution, toi, dans ton parcours
Vous connaissez un peu, vous aussi, peut-être
Tout petit peu, mais j'ai pas le recul que tu as peut-être.
Bah oui, ouais, parce que ça fait quelques années que j'entends parler d'un tel et d'un tel et d'un tel. Voilà. Plus que vous.
Sans citer forcément des gens ou des centres des gens, mais voilà.
Alors le milieu est petit, donc on en fait vite le tour. Mais oui, c'est ce qui se dit beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de vraie prod à Toulouse. Et en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai prod ? Mais ouais, mais c'est juste qu'il n'y a pas grand monde qui a vraiment envie de faire du cinéma. Il y en a une qui était connue qui a fermé. Après, il y a le local qui, quand même, fait des choses, je pense, d'une manière assez chouette et entière. Et que je connais pas bien, mais voilà, dont j'entends parler. Après, ça va être des oui-dire, donc c'est un peu chiant. Mais j'en ai connu quelques prods. Et c'est sûr qu'en termes de cinéma, il y a personne, quoi.
Et en termes de subventions aussi, parce que tous, quand on commence à produire un premier film, on cherche des subventions de régions et tout ça. Et moi, j'ai toujours entendu certaines régions ont une vraie politique de donner des subventions pour aider à produire des films. D'autres, un peu moins, sont plus frileuses. Et moi, n'étant encore pas produit de premier film, j'avoue que, par exemple, la région Occitanie, je ne sais pas où elle se situe un peu, ou s'il y a une vraie volonté politique, tu vois, une maison de cinéma, quelque chose.
En termes d'investissement, ce n'est pas qu'à Rhône-Alpes, enfin, à l'époque, Rhône-Alpes-Auvergne, donc je ne sais pas où ils en sont.
Aquitaine
un peu. Et en fait...
Bien
D'accord. Ouais, bah, tu vois, on n'est pas entouré, en fait. Et le centre, la région centre, en court-métrage, elle est très dynamique. Et voilà. Essentiellement, c'est eux, hein, quand même. Bah, enfin, non, j'en ai oublié une. C'est l'Île-de-France.
Ouais, bizarrement.
Elle est sous-entendue, celle-là.
Après, il y a cette chance, du coup, de, comme c'est un peu ce paysage-là,
tout le monde se connaît.
Pour peu que tu aies une bonne écriture de dossier et que tu balances un peu des trucs et tout, à la région, il y a des gens preneurs et qui écoutent parce que, en fait, ils en ont aussi marre des vieux de la vieille qui font des...
Ouais.
Je suis désolée, je parle un peu comme chez moi. Mais...
Alors qu'il y a des on micros, parle comme mais... ça aussi chez nous, c'est très bien. T'inquiète, c'est très bien.
Je suis sûre que les gens qui nous écoutent.
Mais du coup, ça nous a été dit beaucoup, quoi. Que nos dossiers, ils avaient une forme déjà qui était. Enfin, déjà qui sortait du lot. Parce qu'il y a un paysage qui est un peu moribond. Mais c'est pas tout à fait vrai. Bien sûr qu'il y en a plein des exceptions et qu'il. Il se passe des choses, mais et là je parle de vraiment des boîtes qui ont l'habitude de déposer en région parce qu'elles sont en région. Il y a plein de gens qui déposent, qui viennent d'ailleurs avec eux et tout ça. Et puis il y a aussi des boîtes à Toulouse qui écrivent des choses bien et qui qu'il faut soutenir et tout. Mais je veux dire, il y a une espèce de gros classico qui existe. Quoi.
Ok. Bah, écoutez, je pense que c'est une bonne touche d'espoir pour finir notre émission. Voilà.
On en profite pour vous dire que Kaleidos Film veut devenir une boîte de prod.
Ah oui, bon, pardon. Et que si vous ne savez pas,
d'ici 10 ans ou 20, mais bon.
Et si vous ne savez pas où mettre vos courts-métrages qui ne passent nulle part, même pas en festival, il y a toujours kinosphère.org, le super site de diffusion de courts-métrages en ligne créé par Kaleidos Film. Ça fait pas de mal de se faire de l'autopub de temps en temps.
Bien sûr.
Voilà. Et bah écoutez, on va enchaîner du coup cette émission avec la chronique cinéphilique du Jojo.
Oui, alors je vais commencer par vous poser une petite question. Quel est le premier film de Orson Welles ?
Bah, Citizen Kane.
Et ouais, bah alors tout le monde dit que le premier film de Orson Welles, c'est Citizen Kane. C'est cette suprématie suffisante du long métrage est tellement réductrice en vue de toutes les variétés que le cinéma peut offrir en termes de format. Et tout ça que pour des raisons financières, parce qu'il n'y en a pas d'autres de raisons. Et pourtant, le format court amène une écriture particulière, une synthèse sensible, tel un haïku. Le court-métrage est souvent plus propice à la poésie, c'est un format qui doit être choisi selon le thème du film, comme on choisirait une caméra ou un choix esthétique, et on ne devrait pas avoir honte de faire un court-métrage. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui arrive. Le court-métrage reste sur le banc de l'école, il n'est pas considéré à tel point que les grands réalisateurs renient leur tout premier pas, qui leur a pourtant tout appris. Et oui, sans premier pas, on n'apprend pas à marcher. Alors, quel est le premier film de George Orson Welles ? Eh bien, ce n'est pas Citizen Kane, c'est bien The Out of Age, en 1934. Et Orson Welles et William Vance réalisent ce film 7 ans avant que Welles sorte Citizen Kane. L'histoire est simple. Une femme âgée est assise sur une cloche, tandis qu'elle oscille d'avant en arrière d'une manière évocante, tandis qu'un serviteur à la face noire tire sur une corde. Un monsieur élégant, tel un dandy, apparaît au sommet d'un escalier et baisse son chapeau à la dame. Il sourit et courtise son attention. Elle ne répond pas. Mais le serviteur se pend, et oui. Puis, la scène se transforme en un intérieur sombre. Le monsieur est assis devant un piano à queue et joue. Mais quelque chose ne va pas. Il ouvre le couvercle du piano et trouve la femme allongée à l'intérieur, morte. Il feuillette un certain nombre de cartes en forme de pierre tombale avec différentes inscriptions, dormir, au repos, avec le Seigneur, et choisit finalement celui qui dit la fin. Non, ce n'est pas un spoil tant la forme est distordue. J'ai dû regarder quelques fois le film pour tout bien comprendre. En fait, en 1934, Welles a 19 ans. Il rejoint William Vance, un ami de lycée, à Woodstock, dans l'Illinois, et tourne The Out of Age. Il dure 8 courtes minutes et comporte 4 membres. Welles, Vance, Virginia Nicholson, qui est la petite amie de Welles à l'époque et qui sera sa première épouse un peu plus tard. Et il y a une quatrième personne, Paul Edgerton. L'intrigue est totalement surréaliste, voire cryptique. Les images sont surexposées, on arrive quand même à voir le soin grossier du maquillage et le montage est difficilement lisible. Pour Welles, c'était plus une blague, disait-il, un film tourné en 2 heures avec le plaisir, un dimanche après-midi. Mais quand même, lors d'une interview avec Peter Bogdanovich, voyant que ce court-métrage est compté dans sa filmographie, Welles retrouve la flamme qu'il a animée avec son ami Vance à tourner ce film et a affirmé que The Heart of Age n'était qu'une parodie du premier film de Jean Cocteau. Le sang d'un poète, sorti 4 ans avant, en 1930. Rien que ça. Une étrangeté complètement visible sur Internet, à contempler au milieu de, par exemple, un chien andalou, par exemple, de Louis Buñuel, ou de tous les films surréalistes, ainsi que toute la filmo de Jean Cocteau. Mais si j'ai ouvert avec Orson Welles, c'est tous les grands réalisateurs sont passés par le court-métrage. C'est parfois l'esquisse d'une œuvre. Mais certains, comme Lars von Trier, n'ont jamais oublié la pertinence du court-métrage. Lui-même en a 13 à son actif, et son dernier en date est de 2010, il s'appelle Dimension, 1991-2024. C'est le nom du film. Certains courts-métrages sont plus connus que d'autres, souvent les courts ont du mal à passer les frontières. On connaîtra peut-être plus Foutaise, par exemple, de notre Jean-Pierre Jeunet National, qui réalise 2 ans avant Délicatissène, et 12 ans avant Amélie Poulain, ou encore L'école des facteurs de Jacques Tati, qu'il réalise parmi d'autres courts-métrages 2 ans avant Jour de fête. Mais en 1968, le grand Martin Scorsese sort Le Grand Rasage, qui est un film fabuleux et brutal, dessinant déjà d'un coup de rasoir son style incisif qui lui colle encore la peau. En 1967, David Lynch exprime son univers étrange, onirique et torturé dans un court-métrage d'animation se nommant Six Figure Getting Sick, ou comme un tableau vivant sur un fond de sirène, six personnages vomissent les couleurs de leur enfermement dans un tableau représentant peut-être le cycle de l'autodestruction humaine. On ne sait pas, en fait, parce que c'est Lynch. Et pour en situer un dernier, et pour faire la balance, parce qu'il y a beaucoup de mecs dans tous ces films cités quand même, ce n'est pas un court-métrage, mais c'est un premier film sur pas mal de niveaux. Il s'agit de Wajda, de Haïfa Al-Mansour, qui est non seulement un premier long-métrage, mais aussi un premier film réalisé par une femme en Arabie Saoudite, qui est elle-même considérée comme la première femme réalisatrice de ce pays. Pays dans lequel je rappelle que les cinémas sont interdits. Truc de ouf. Et en plus, c'est un film subversif sur une petite fille rebelle rêvant d'une bicyclette dans le royaume où les femmes sont privées de droits. C'était un beau moment d'émotion pour la réalisatrice Haïfa Al-Mansour d'être reconnue dans son pays alors que les femmes ont encore l'interdiction de conduire une voiture. Et Wajda a peut-être contribué à la révolte de plus en plus prononcée des femmes d'Arabie qui se filment en masse au volant des voitures. Cela dit, même si le droit de conduire devrait évoluer en juin 2018, il y a encore quelques mois, une femme a fait 63 jours de prison pour avoir pris le volant. Espérons que le cinéma continue à faire des pieds de nez aux États pour leur lancer de plus en plus fort un gros miroir dans leur face. Bon, voilà, bisous.
Eh ben merci Jojo, c'était la chronique cinéphilique du Jojo. Et ben voilà, donc il est temps de se dire au revoir et au mois prochain. On va se quitter comme d'habitude en écoutant l'épisode 5 de Beluga. Donc une nouvelle chronique de la voyageuse Ulysse en Biélorussie réalisée par Marie. On va dire merci à Clémentine, à Baptiste, merci. À Julie, à Marie et à Lucie, pardon, j'ai dit Julie, je suis désolée. À Aurel et à Raphaël pour la technique. Et
merci Boubou.
Et merci moi-même. Et merci. Ben on se retrouve le mois merci prochain. Merci à tous.
Au revoir.
Bisous.
Beluga, la nuit du deuxième jour, première partie. Hier soir, quand elle avait voulu retourner au 89, bâtiment 47. Rue Narosevitcha, district, dont elle ne connaissait pas encore le nom, Ulysse était perdue, plusieurs fois. À l'aller, une jeune fille lui avait montré le chemin jusqu'au métro, et Ulysse l'avait suivi un peu le nez en l'air, comme elle ne s'en remettait pas, que s'étendre sur tout le district, à perte de vue, un immeuble répété 1000 fois, toujours à l'identique. Il pleuvait. Alors quand elle ne contemplait pas l'immensité, Ulysse était occupée à éviter les endroits vraiment boueux, des raccourcis tracés par le pas de l'homme au milieu des pelouses carrées. Bref, Ulysse n'avait pas été assez rigoureuse, et elle s'en rendait compte, maintenant qu'elle était perdue dans la nuit du district. Mais tout de même, il ne pleuvait plus. Il faisait même bon dehors. Elle se sentait bien dans cette promenade improvisée. Ça tenait de la folie que tous ressemblent à ce point. Les mêmes bars en L, avec au milieu les parcs pour enfants rouillés. De petites pistes de course, des écoles de plein pied. C'était toujours les mêmes éléments de décor qu'elle retrouvait à chaque coin d'immeuble. Seuls les numéros, de gros chiffres rouges qui rouillaient les façades grises, changeaient mais ne se suivaient pas. Elle avait noté qu'elle avait par deux fois traversé une cour d'école comme celle-ci servait aussi de cour d'immeuble. Du moins, c'est ce que cette nuit avait l'air de lui montrer. Elle vérifierait une fois le jour venu. Ces cours, délimitées, n'étaient cependant pas fermées. Habitants des immeubles et écoliers se croisaient pendant les récréations. L'espace commun, ça la fit sourire. Elle sentait aussi de la vie derrière les fenêtres éclairées. De différentes couleurs, différentes intensités. Ici, on regarde sûrement la télévision. Le carré découpé sur la tour bourdonne de lumière. Là-bas, on part dormir. Le plafonnier, une fois coupé, la fenêtre a disparu. On se fond à nouveau dans le district sans bouger. ces enclaves luminescentes cassaient l'ordre de ces grands espaces, et elle les regardait, assise dans une cour d'école, dont les enfants étaient endormis dans le noir. Beluga passe d'une case éclairée à la suivante. C'est le moment de la journée où, enfin à l'abri de l'espace public, trahi seulement par leurs fenêtres, les adultes se retrouvent. Lumière et nuit. Un ensemble mal organisé, où l'aléatoire s'invite enfin. Des rêves, blancs ou noirs, des nuits d'amour et d'engueulade. La télévision qui crache sa propagande, mais que l'on peut regarder de loin, en sous-vêtements dans sa cuisine. Ulysse le sent pour la première fois. Le désordre. La liberté recueillie au creux de ses lumières, trouvée et prise partout pour s'en nourrir. Elle l'aime.
You ever been to Hollywood?
All right, let's get some pictures.
I love you.
I think it's about time you heard these recordings.
Allons, silence!
Clap. Le cinéma qui s'écoute.